Bienvenue dans Santé au travail, kit pratique, le podcast de la Mutualité française. Je suis Marion Ledéan, RH et créatrice de contenu. Bienvenue dans Santé au travail, kit pratique, épisode 4. D'après une étude APEC 2022, un cadre sur quatre estime que sa santé mentale s'est dégradée ces dernières années. Surcommunication, surinformation, sursollicitation, contraintes mentales, mais aussi risques physiques importants. Selon l'Observatoire de la Mutualité française, plus de la moitié des actifs, 54% plus précisément, font part du sentiment d'une intensification de leur charge de travail au cours des derniers mois, voire d'un allongement de leurs horaires pour 39% d'entre eux, soit plus d'un tiers. Toujours selon l'Observatoire de la Mutualité, les actifs confient ainsi être fréquemment soumis à la réalisation de gestes répétitifs pour 62% d'entre eux, à une exposition prolongée aux écrans pour 60% d'entre eux et à une position assise prolongée pour 59% d'entre eux. On sait par exemple qu'un cadre passe en moyenne 5 heures par jour à consulter sa boîte mail.
Donc en fait, tout a commencé à la période du Covid, où on a dû licencier pas mal de personnes, malheureusement. Donc en plus de mon travail, qui était déjà assez intense à ce moment-là, j'ai dû faire d'autres tâches aussi qui n'étaient pas dans mes tâches habituelles, dont je n'avais pas forcément de formation, par exemple une formation d'ergonomie, donc ce qui a joué beaucoup sur ma santé, donc en particulier mon dos. Je suis rentrée chez moi le soir vraiment avec des douleurs de dos vraiment très intenses, une raideur qui me remontait jusqu'au cervical. Donc au départ, je me suis simplement dit que c'était le stress, que c'était la charge de travail, un mauvais mouvement, parce que c'était des charges lourdes aussi que je portais. Donc ma posture aussi, peut-être au travail, au quotidien, où je faisais peut-être moins attention que d'habitude. Donc tout ça aurait pu jouer. Donc au début, je me suis pas forcément inquiétée. J'ai fini par aller voir un médecin qui m'a mis sous décontractant musculaire avec une crème anti-inflammatoire. Malheureusement, les décontractants musculaires, je ne les supportais pas du tout. Donc j'ai dû les arrêter et avoir que la crème anti-inflammatoire. Et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas, donc je suis partie le revoir. Il a donc décidé de me donner des examens complémentaires à faire, donc une radio du dos et un scanner des lombaires, qui ont par la suite démontré une hernie. Donc suite à la découverte de cette hernie, donc c'est une hernie de la L4 L5, je suis en arrêt de travail depuis bientôt 2 ans maintenant. On ne s'attend pas si jeune à avoir ce genre de problème, malheureusement. Donc je suis en reconversion professionnelle. Je n'ai pas encore trouvé vraiment ma voie. J'espère la trouver très prochainement. Les conseils que je pourrais donner aux personnes dans ma situation, c'est vraiment d'en parler, de ne pas rester avec vos douleurs. C'est vraiment très important de soigner ces douleurs parce que ça affecte vraiment le moral, le quotidien, votre vie personnelle. Donc en parler, c'est très important. De se battre aussi pour avoir des dispositifs adaptés dans vos entreprises. Avoir des formations pour l'ergonomie, quel que soit le corps de métier. Hein, parce qu'on peut très bien être derrière un bureau, à porter des charges lourdes et avoir une mauvaise posture. Donc c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour conserver vraiment sa santé au maximum. D'avoir du matériel adéquat, surtout quand vous portez des charges lourdes. C'est vraiment très important et il faut vraiment se battre pour ça.
Selon l'Observatoire de la Mutualité, si les Français sont assez critiques à l'égard de l'engagement des entreprises, force est de constater que rares sont les salariés qui ont le sentiment, et encore moins la certitude, que leur propre entreprise a pris des mesures concernant différents aspects de la santé au travail. Seuls 40% pensent que leur entreprise a mis en place des dispositifs pour tenir compte des effets, notamment du télétravail, sur la santé. Aujourd'hui, avec mon invité et l'Observatoire de la Mutualité, on va parler dangers des écrans, chaises de bureau, risques psychosociaux ou RPS pour les plus intimes. Mais les cadres peuvent-ils encore s'épanouir au travail? Le cadre n'est-il pas amené à externaliser sa propre fonction, l'aidant ainsi à concilier vie professionnelle et vie personnelle? Les TMS, les troubles musculo-squelettiques liés au travail sur écran, sont-ils bien pris en compte pour les cadres? C'est avec Alicia aujourd'hui que nous allons pouvoir décortiquer ce sujet. Alicia, bonjour. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos chers auditeurs et auditrices?
Bonjour Marion. Alors Alicia Guillot, AGB Solutions, je suis ergonome et psychologue du travail de formation et j'accompagne depuis plus de 10 ans maintenant les chefs d'entreprise et les cadres à mieux gérer leur qualité de vie au travail et à améliorer les conditions de travail dans les entreprises.
Très bien. C'est un sujet qui, pour toi, est de plus en plus pris en main par les cadres, la santé au travail ces dernières années. Est-ce que tu notes une évolution ?
Oui, par la force des choses, par l'évolution de la réglementation, effectivement, les cadres à tout niveau de l'entreprise prennent de plus en plus en main ces sujets de santé, que ce soit pour leurs collaborateurs, mais également pour eux, car on sait qu'être bien dans son travail, être en bonne santé, c'est aussi source de performance pour l'entreprise.
Complètement. Et en plus, quand on sait que 39% des actifs seulement, en fait, estiment que leur travail a un effet sur leur santé, qui tend d'ailleurs plutôt vers la dégradation, mais seulement 39%. Alors, me vient une question. Selon toi, les cadres pensent-ils ou ont-ils le droit d'être malades ?
Alors, les cadres, avant d'être des cadres, ce sont des salariés, comme n'importe quel salarié dans l'entreprise. Donc, ils ont le droit d'être malades. Et leur employeur, hein, parce que les cadres ont des responsables au-dessus, sont en charge d'assurer leur santé et sécurité au travail, au même titre que n'importe quel autre collaborateur. Donc oui, ils ont le droit d'être malades, comme n'importe quel autre salarié, clairement. Après, c'est certain qu'un cadre a des difficultés de santé sur une entreprise, les impacts sont un petit peu plus important parce qu'il y a un niveau de responsabilité plus important également.
Est-ce que justement par rapport à ce niveau de responsabilité, est-ce que aujourd'hui on note quand même que ces professions cadres et professions intellectuelles sont des professions qui très souvent sont confrontées au travail sur écran, au travail assis, etc. On note par exemple, pour se donner un ordre d'idée, qu'en France près de 45 000 TMS ont été recensés et que ces TMS sont à l'origine de 88% des maladies pro. Ce qui me fait penser au lien tout à l'heure que j'ai donné avec les 5 heures par jour à regarder en fait sa boîte mail. On sait par exemple que les cadres et les professions libérales se montrent davantage concernés par une exposition prolongée aux écrans pour 77% d'entre eux et une position assise prolongée pour 72% d'entre eux. Ce qui laisse à penser qu'en fait les maladies des cadres sont des maladies qui se voient moins. On est sur des troubles qui se voient moins. Et si aujourd'hui j'étais face à un cadre et que je voulais lui donner des conseils sur les comportements à adopter lorsqu'on est cadre pour mieux se sentir quand on est au travail et du coup éviter que sa santé soit touchée, qu'est-ce que tu pourrais leur donner toi comme conseil ?
Déjà, oser en parler. Parce que c'est vrai qu'on est cadre, et vous m'avez posé la question, est-ce qu'on a le droit d'être malade ? J'ai envie de dire, on a le droit d'être malade, on a le droit de ne pas se sentir bien sur son poste, que ce soit pour des problématiques physiques ou des problématiques liées à des facteurs de risque psychosociaux. Et ce qu'on doit faire en tant que cadre, c'est oser en parler, oser alerter son N+1, que ce soit pour soi, parce que l'entreprise, j'insiste, doit être un endroit où on est en bonne santé, et aussi pour l'entreprise en elle-même, parce qu'un cadre qui n'est pas bien à son poste, un cadre qui se sent mal, il y aura forcément, à un moment donné, un impact sur la performance de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, je dirais alerter, et oser alerter.
Ouais, parce que quand on regarde, effectivement, le cadre, peut-être qu'il ne s'en rend pas compte, il est très fort probable, en fait, que le cadre soit dans une souffrance latente, due, par exemple, aux écrans ou aux sursollicitations. Est-ce que, selon toi, il y a des signes qui ne trompent pas sur la souffrance ?
Ce qui est clair, c'est que souvent, les populations cadres se voilent un petit peu la réalité de la situation et ne se l'avouent pas à eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une posture où être cadre, c'est s'investir énormément dans son travail, faire beaucoup d'heures, avoir des hauts niveaux de responsabilité. Et quand on est cadre, il faut être fort. Avouer finalement nos faiblesses et nos problématiques de santé, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, si on parle de la partie écran, donc sont plus les risques d'ordre physique liés notamment à trop de travail sur les écrans et surtout une notion de sédentarité. Il y a des signes physiques qui ne trompent pas, maux de tête, la fatigue oculaire, des maux de dos. Donc ça, ce sont des signes physiques qui peuvent traduire des difficultés liées notamment à un travail sur écran. Sur les sollicitations d'ordre plus psychologique, quand on a une notion peut-être de moins de patience, en tout cas, ou qu'on devient un petit peu cynique sur sa situation de travail, qu'on y prend moins de plaisir aussi. Le plaisir est important dans le travail. C'est des signes aussi qui doivent nous alerter. Sur cette deuxième partie, sur les éléments davantage d'ordre psychologique, notre entourage est souvent un bon indicateur également, car eux nous perçoivent aussi et peuvent nous alerter en tout cas sur d'éventuelles difficultés qu'on peut avoir dans le cadre de notre travail.
Oui, ça sera peut-être le premier public à voir en fait que la santé se dégrade parce qu'effectivement, on peut peut-être avoir tendance à moins s'en apercevoir nous-mêmes avant en fait d'arriver à ce point où finalement on commence à se désengager en fait de son travail parce que j'ai quand même l'impression que la chronologie, en fait, c'est un peu ça, c'est qu'en fait, je vais mal et en fait, je me désengage. Par exemple, aujourd'hui, on sait que seulement 40% des salariés estiment que leur entreprise a mis en place des dispositifs suffisant pour tenir compte, par exemple, des effets du télétravail sur la santé. On pense effectivement que les entreprises peuvent tout mettre en place et puis que tout se voit et qu'on va alerter. Mais en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et ça me fait penser notamment au droit à la déconnexion pour les cadres, puisque je reviens toujours sur cette sursollicitation, les écrans, etc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le droit à la déconnexion ?
Le droit à la déconnexion, c'est la possibilité de pouvoir en fait concilier travail et vie hors travail, de pouvoir, au moment où on quitte le bureau, se dire qu'on n'est plus sollicité pour des questions liées au travail dans sa vie personnelle. Et c'est un droit aujourd'hui qui est rappelé. N'importe quel collaborateur a ce droit à la déconnexion. C'est un droit qui n'est pas toujours facile à mettre en place, notamment avec l'émergence du télétravail et avec l'émergence des nouvelles technologies, où aujourd'hui, clairement, on peut avoir des difficultés, notamment sur les populations cadres, à couper du travail, tout simplement, et avoir finalement des barrières entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui sont de moins en moins présentes. Et particulièrement sur les populations cadres, il y a une notion de responsabilité importante lorsqu'on est cadre. Et forcément, cette responsabilité pousse les cadres aujourd'hui à être en vigilance, entre guillemets, permanente et à être tout le temps connectés au travail pour pouvoir répondre à ce niveau de responsabilité important.
C'est vrai, on a l'impression, surtout depuis le Covid, que cette surcommunication, cette surconnexion en fait, des professions intellectuelles, des cadres et des personnes qui travaillent sur écran, elle est... On pensait mieux prise en compte et puis on se rend compte qu'il y a de plus en plus de difficultés parce qu'il y a aussi une installation dans le temps du télétravail et notamment de la connexion. Ça me fait penser à des initiatives qui ont été mises en place, notamment par Aesio Mutuel, qui a mis en place plusieurs initiatives pour la santé au travail des cadres via notamment des ateliers autour des TMS et autour de la déconnexion. C'est pour ça que vraiment ça me fait penser à ça à ce moment-là. Sur les TMS, par exemple, je pense à deux cas notamment où on a eu un premier cas sur un groupe bancaire et financier mutualiste, où en fait, avec la démocratisation du télétravail lors de la crise sanitaire, justement, l'entreprise a mis en place en fait un accord de télétravail, comme beaucoup. Et de ce fait, les personnes en charge de la prévention, en fait, elles ont souhaité associer à cet accord des formations pour limiter l'exposition des salariés au TMS. Et ça, je trouve que c'est super, parce que c'était une initiative qui a rassemblé plus de 500 personnes en webconférence. Et deuxième cas auquel je pensais, c'était un autre organisme, mais ici de droit privé. Et dans un contexte en fait, de démocratisation du télétravail au sein de la structure, suite encore une fois à cette fameuse crise sanitaire et face à l'obligation pour l'employeur de mettre en place des mesures en fait, pour préserver la santé des salariés, parce qu'on n'oublie pas que l'employeur a pour obligation de mettre en place les mesures de nature à assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, ils ont mis en œuvre des mesures pour préserver la santé des salariés, notamment par des ateliers de sensibilisation pour prévenir les TMS. Et là, effectivement, on avait une dizaine de personnes présentes à l'atelier. Et en fait, je trouve que c'est super parce que ce sont des ateliers qui se déroulent en fait sur 6 étapes. Premièrement, on explique vraiment ce que sont ces troubles musculo-squelettiques, un état des lieux des pathologies en France. En deuxième partie, vraiment des notions d'anatomie et de biomécanique et les pathologies du travail, des sujets qu'on n'aurait jamais pensé en fait amener en entreprise il y a quelques années. En troisième point, une étude de l'aménagement d'un poste de travail, en termes d'ergonomie, d'ambiance, etc. En quatrième, la posture à adopter, les bons gestes à adopter. Cinquième, les entraînements aux gestes corrects. Et sixième, l'hygiène de vie. Donc, c'est vrai que ce sont des choses qui sont très prises en compte aujourd'hui par les entreprises. Alicia, donc toi, tu travailles sur l'ergonomie des cadres. Est-ce que tu aurais des grands points à connaître pour permettre aux cadres d'appréhender leur santé au travail lorsqu'ils sont en environnement de travail? Qu'est-ce que je fais? Je suis sur mon poste de travail, je suis un cadre. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon poste pour ma santé à moi?
Alors, c'est déjà mettre en place les principes d'ergonomie classiques liés au travail sur écran. Ça va être bien régler son fauteuil de bureau, disposer juste d'un fauteuil de bureau quand on est en télétravail, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis aménager son poste de travail en réglant correctement l'écran, en positionnant correctement le clavier, et surtout en essayant de casser cette notion de sédentarité, c'est-à-dire en n'hésitant pas à faire des pauses régulières, qui soient des pauses actives, où on va bouger sur son poste. Ce qui va générer les troubles musculo-squelettiques liés au travail sur écran, ça va être vraiment le fait de ne pas bouger. Le mouvement, c'est la santé, clairement. Ça, c'est le premier élément. Et puis également, on sait très bien qu'en matière d'apparition de troubles musculo-squelettiques, et plus particulièrement pour les cadres, ça va être les facteurs psychosociaux. On sait que les risques psychosociaux ont un impact et peuvent favoriser la survenue de troubles musculo-squelettiques. Donc dans ce cadre-là aussi, c'est de ne pas hésiter à alerter sur des problématiques organisationnelles, managériales, qui vont générer du stress, un surinvestissement, voire du mal-être psychologique. et avoir finalement une approche globale, TMS et prévention des risques psychosociaux. Et dans ce cadre-là, vous évoquiez tout à l'heure des dispositifs très intéressants sur la mise en place du télétravail. Je compléterai ces initiatives avec des éléments aussi qui tournent autour des pratiques managériales liées à la mise en place du télétravail, notamment la mise en place de formations pour savoir manager à distance ses équipes. Et c'est des choses qui sont aussi importantes, j'ai envie de dire, que des conseils sur l'ergonomie du poste de travail proprement parlé.
Et d'ailleurs, c'est un lien intéressant parce que le droit à la déconnexion, quand on en a commencé à en parler, on avait vraiment ce lien vie professionnelle, vie personnelle. Et on voit que le droit à la déconnexion tend de plus en plus à se rapprocher effectivement de la prévention, donc des RPS en télétravail, les risques psychosociaux, et la conciliation des temps de vie. En fait, puisqu'aujourd'hui, effectivement, avant, on avait une vie personnelle, une vie professionnelle. Aujourd'hui, on a une vie, en fait, dans laquelle j'ai des temps de vie qui sont plus ou moins alloués à telle ou telle partie. Ça me fait penser à une autre initiative dont j'ai envie de parler, d'Aesio Mutuel, encore une fois, des ateliers autour du droit à la déconnexion. Et là, en fait, ce sont des élus d'union régionale, de confédération, de syndicats salariés, d'organisations patronales qui se sont emparés du sujet et, en fait, ont décidé de participer à un atelier autour du lien, justement, qui pouvait y avoir entre tous ces points-là. Donc, en fait, ce sont des webinaires qui, au total, ont rassemblé à peu près 350 élus et qui ont été sensibilisés justement sur ça au travers, en fait, de deux grands points. D'abord, connaître ce que ça veut dire réellement le droit à la déconnexion, quel est son cadre légal, pourquoi on déconnecte, est-ce que c'est possible, est-ce que même c'est souhaitable, et le côté vraiment prévention, avec la prévention et les bonnes pratiques à instaurer, notamment avec la conciliation des différents temps de vie, les bonnes pratiques au bureau et en télétravail notamment. Donc, c'est vrai qu'on voit qu'avec le temps, on tend vraiment à rapprocher ces notions-là de RPS et de droit à la déconnexion. Est-ce que tu penses, toi, que la pénibilité du travail, elle tend à devenir en fait un monopole des autres catégories socioprofessionnelles au détriment des cadres? Si là, on pense à la santé des cadres, je me demande si effectivement, on se dit pas, non, c'est moins dur que les autres. Qu'est-ce que t'en penserais, toi, de ça?
Je ne suis peut-être pas objective, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas séparer la pénibilité d'ordre physique et puis la pénibilité d'ordre peut-être davantage psychologique pour des populations cadres ou en tout cas de prestations intellectuelles, travail administratif. Pour moi, il faut envisager la prévention au sens large. Pour prévenir, il faut prévenir des risques. Ces risques qui peuvent être d'ordre physique et également d'ordre psychosocial. Il faut avoir une approche vraiment globale en matière de prévention. Et c'est ce que nous pousse aussi la réglementation. Il faut avoir en tête que les risques psychosociaux sont des risques professionnels à part entière, à traiter de la même façon que les autres risques professionnels qui sont d'ordre plus physique, à intégrer dans le document unique d'évaluation des risques et sur lequel il faut avoir des mesures préventives, que ce soit pour les populations cadres, qui sont des salariés, mais pour n'importe quel autre salarié. Donc il ne faut pas, à mon sens, distinguer les deux types. Je pense que la pénibilité, aujourd'hui, elle est différente pour des populations ouvriers que pour des populations cadres. Pour autant, elle doit être traitée avec la même ambition et la même énergie sur les différentes typologies de salariés.
Pour éviter justement, effectivement, comme tu le dis, d'avoir une scission entre les catégories socio-professionnelles. On a passé un beau panorama, on a un bel éventail de tout ce qui existe. Et en conclusion, j'aimerais te demander si tu avais un conseil à donner à un jeune cadre qui débute sa carrière. Quel conseil tu lui donnes par rapport à tout ça ?
Être cadre, c'est pas être un super-héros. Et on a le droit, en étant cadre, parfois, d'avoir des difficultés sur son poste de travail qui peuvent générer à terme des problématiques de santé physique ou psychologique. Donc, c'est un jeune cadre, vous n'êtes pas des super-héros. Alertez quand vous vous sentez plus capable de réaliser votre tâche correctement. Ça sera pour moi une preuve d'une maturité managériale, clairement.
Et justement, alertez. Qui ? Est-ce qu'il y a comme ça des interlocuteurs auxquels tu penses, peut-être deux ou trois interlocuteurs à connaître en fait quand on est cadre et qu'on veut veiller à sa santé ?
Alors, dans une entreprise où les sujets de santé au travail sont pris à cœur et font partie de la stratégie même de l'entreprise, c'est alerter son N+1 sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur son poste de travail. On est quand même dans un contexte où cet aspect-là n'est pas forcément généralisé dans toutes les entreprises. Dire le contraire, ce serait mentir. Donc dans ce cadre-là, les services de santé au travail, le médecin du travail peut être un interlocuteur. Tout comme dans des plus grandes entreprises, les représentants du personnel qui sont là aussi pour faire valoir les droits des salariés, et y compris des populations cadres. Donc voilà un petit peu sur quel levier on peut s'appuyer pour faire état peut-être de problématiques rencontrées sur son poste qui peuvent générer des soucis de santé.
Et si on devait reprendre trois signes à identifier qui, selon toi, présagent un problème de santé au travail, soit sur un burn-out, soit sur des TMS, c'est quoi les deux, trois premiers signes que tu vois ?
Alors, sur les signes liés au burn-out, ça va être un surinvestissement dans son travail, une perte de sens, une perte de plaisir au travail. Et puis, on observe souvent un certain cynisme qui commence à émerger sur la situation de travail, pour la partie burn-out. Et sur le volet troubles musculo-squelettiques, ça va être des douleurs physiques, au niveau notamment du dos, des membres supérieurs, poignets et de la fatigue visuelle.
Bon, bah, ça fait plein d'infos. Merci mille fois, Alicia, d'avoir bien voulu parler de ce sujet avec nous. Je pense que là, pour les cadres qui vont nous écouter, on repart avec plein de clés, plein d'outils qu'il faut saisir. Et on retient bien cette phrase qui, pour moi, était très importante. Quand ça commence à aller moins bien, j'alerte et je ne suis pas un super-héros. Merci beaucoup, Alicia. Très bonne journée. À très bientôt.
Merci.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre dernier épisode qui sera pleinement consacré aux indépendants.
Santé au travail Kit Pratique est un podcast de la Mutualité française animé par moi, Marion Ledéan, enregistré au studio Alvéole à Nantes et aux Bahamas à Lyon. Toutes les références seront en description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil.